Bienvenue tout le monde à ce nouveau partage. Ce soir, on est en intimité. On a eu de la visite ce soir. On a soupé ensemble. C'était bien agréable. Et puis, j'attendais d'avoir le moment de disponible pour être avec vous pour ce partage de la parole de Dieu. Alors, on veut saluer les gens qui nous écoutent sur Internet, les gens de Radio Prédication, les gens du Top Chrétien, tous nos auditeurs et nos auditrices, Claire et Nathan, évidemment, et nos amis, notre famille, nos petites sœurs, et puis la famille Chabot vous salue. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez, on va prier, on va remettre ça au Seigneur, et puis on va continuer notre étude sur le livre des Proverbes. Comme vous savez, ça achève. Nous sommes rendus au dernier chapitre, mais quand même, ça fut fort instructif. Ben, précieux Père, on veut te dire merci pour toutes tes grâces, tes bénédictions. Merci pour tout ce que tu fais pour nous, Seigneur. Merci que nos noms sont écrits dans les cieux. Merci que tu as un plan parfait pour chacun de nous, Seigneur. Et puis, on veut te rendre grâce en toutes choses parce que toute bénédiction vient de toi. Et puis, Seigneur, on veut se présenter devant toi pour te demander pardon pour toutes nos transgressions, nos iniquités, qui sont plus nombreuses que les cheveux de notre tête. Et puis, on veut te demander pardon, Seigneur, pour tous nos manquements, nos convoitises, nos excès, nos mauvaises façons de s'exprimer, nos moments de colère, nos moments de qu'on a échoué, Seigneur. Et puis, on veut te demander pardon parce que tu as pourvu une solution. Et puis, qu'on veut entrer dans ta présence ce soir. Et on veut te demander pardon pour toutes nos transgressions dans le nom de ton Fils Jésus, qui a payé le plein prix, qu'on puisse se faire laver les pieds ce soir, Seigneur. Et on te prie pour que tu puisses venir éclairer la parole, Seigneur, par ton Saint-Esprit, que le Saint-Esprit puisse régner et qu'on puisse apprécier chacune des pépites que tu as mis. Pas des pépites, des pépites que tu as mis dans tes... dans ta parole, que tu as caché dans ta parole pour tes enfants, Seigneur, que tu les as révélés à tes enfants. Et puis, Seigneur, nous prosternons ce soir devant toi pour proclamer que tu es notre grand Dieu. Et puis, on te demande de nous enseigner par ta parole, Seigneur, de nous fortifier, de nous exhorter, de nous corriger, de nous guérir, de nous relever, d'arroser nos âmes, Seigneur, avec cette parole si merveilleuse qui va durer éternellement. Et puis, on te prie que le nom de Jésus soit glorifié à travers ce partage. Amen. Donc, comme vous le savez, nous sommes dans l'étude sur le livre des Proverbes. Et puis, on raconte toujours des petites anecdotes en passant qui sont arrivées. En passant, oui, justement, mon portable que j'utilise pour enregistrer, la connexion sans fil ne fonctionne plus. Donc, ça fait partie des petits éléments fâcheux qui me sont arrivés depuis un peu de temps. Mais on n'en tiendra pas, on donnera pas trop d'importance à ces petits événements anodins. Et puis, ce qui fait que ça complique un petit peu le transfert des données, mais c'est pas grave, le Seigneur va pourvoir une solution. Et puis, on avait vu les derniers versets du chapitre 30. Si vous vous souvenez, et puis on va les relire ensemble, faire une petite révision, si vous voulez bien, et puis on va relire les versets 28 à 33. Il nous manquait un animal qu'on n'avait pas vu, hein. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait un animal qu'on n'avait pas vu, il y avait quatre animaux, mais on avait nommé juste seulement trois, et c'était les petits lézards, je ne sais pas si vous vous souvenez. Tu saisis le lézard avec les mains. Et pourtant, hein, on pourrait lire comme ça, et pourtant, il est même dans les palais des rois. Est-ce que toi, tu y vas dans le palais des rois? Hein, c'est un peu le sens de cette parole-là. Est-ce que toi, tu n'es jamais allé dans le palais des rois? Mais tu vois ce petit lézard-là? Mais lui, il y va. C'est que des fois, on a tendance à minimiser, hein, à minimiser les choses parce qu'on voit par la vue, hein, parce que ces choses projettent. Mais la parole du Seigneur à propos de ces petits animaux-là, c'était, regardez, vous les méprisez, mais c'est des animaux dont vous devriez vous inspirer pour vos propres vies, parce qu'ils n'ont l'air de rien, mais ils ont beaucoup de sagesse, et puis sont peut-être ils pourraient certainement être des sources d'inspiration pour nos vies. Puis on avait parlé de la fourmi, du daman, des sauterelles et du petit lézard qui était un petit peu insignifiant, hein? Tout le monde trouve ça insignifiant, le lézard, mais pourtant, le lézard, il réussit à s'introduire dans la maison du roi. Et puis, il est apprécié parce que c'était un animal qu'on laisse en liberté, on laisse se promener dans les propriétés parce qu'il se nourrit de petits parasites qu'on ne veut pas, comme des bébites. Donc, c'est utile. Ensuite, on avait parlé, il y avait le verset 29 disait, il y a trois choses qui ont une belle allure et quatre qui ont une belle démarche. Le lion, le phare parmi les bêtes qui ne se détournent devant qui que ce soit. Encore là, on peut se servir de ces images que le Seigneur nous donne pour s'inspirer en tant que nous dans notre vie chrétienne. Et on avait donné l'image du lion parce que le lion, on sait que il y a rien qui lui fait peur, hein? Quand on dit cœur de lion, là, c'est que le lion en général, il va être très difficile à apeurer, hein? C'est quelqu'un qui, c'est un animal qui vraiment fait face, qui a peur, il n'y a pas de peur. Et puis on pouvait s'inspirer du lion pour nos vies chrétiennes, ne pas avoir peur des hommes, hein? D'avoir une crainte seulement de notre Seigneur, mais ne pas craindre les hommes. D'avoir des attitudes de lion dans ce monde perdu. Une petite gorgée, pardon. Parce que dans ce monde perdu, des fois, il y a des choses qui peuvent nous faire peur. Hein? Il y a des gens qui parlent fort, des fois. Surtout ceux qui savent qu'on est pour Jésus, qu'on marche pour Jésus. Ça les dérange. Hein? Ça les... Ils parlent fort, des fois. Ils parlent fort. Puis ils essayent de faire peur. Tu sais, il y a des gens qui vont essayer de nous faire peur, d'essayer de nous faire taire. Mais on n'a pas à se taire parce que c'est pas un esprit de timidité que le Seigneur nous a donné, hein. C'est un esprit de sagesse et de force. Et puis on doit savoir cette attitude-là. On peut s'approprier cette attitude-là en s'appropriant notre position en Jésus-Christ qu'on a reçu, en étant des fils et des filles de Dieu, des princes et des princesses. Mais on peut s'inspirer du lion pour ne pas avoir peur des hommes. Parce que nous, ce qu'on respecte, c'est notre Seigneur seulement. Les autres, ils ne peuvent rien nous faire. Amen. Le coursier, c'était un cheval, hein, qui a les reins sains. Les reins sains, vous savez, c'est une image de ceindre sa conscience, c'était une image de la conscience. Dans les reins sains, ça veut dire que ma conscience est branchée, ma conscience est branchée au bon endroit, c'est-à-dire dans la parole de Dieu. Donc, je suis un coursier qui a la conscience branchée dans les préceptes de Dieu pour faire ma course. Hein? Et puis, Paul avait dit, il comparait souvent, hein, à des gens qui faisaient les Olympiques ou qui couraient... courait pour arriver au but, hein. Il n'était pas manqué le but. Puis le but, c'était d'avoir gardé la foi. D'avoir gardé la foi pendant toute cette expérience qu'on vit. Et puis le coursier doit nous inspirer, en fait, parce que le coursier, quand on lui donnait sa destination, c'était un but, hein. Le coursier, c'est lui qui est le messager, le coursier, avec son cheval, et c'était le but simplement. Son objectif, lui, c'était de livrer le message, hein, au coursier. Vous vous souvenez de ça? Et puis lui, là, il avait les reins sains, ça veut dire sa conscience était bien préparée, notre conscience bien préparée, bien ajustée, bien connectée dans les préceptes de Dieu. Et puis notre but, c'est quoi? C'est Dieu. C'est la l'œuvre de Dieu pour nos vies. C'est de servir notre Seigneur. Et puis, on devrait s'inspirer de ces paroles-là pour dire quelle devrait être notre attitude. Des fois, ça va pas assez vite pour nous, fait qu'on se met à faire toutes sortes de choses. Des fois, Dieu il nous apprend à attendre aussi. Mais notre but, ça doit toujours être Dieu, le plan de Dieu pour nos vies. Le bouc, dans l'original même, on dit la chèvre de montagne. Vous savez que c'est des animaux qui sont capables de grandes prouesses dans les pentes escarpées des rochers. c'est vraiment impressionnant la façon dont ils sont capables de se déplacer au travers de ces pentes-là. Mais puis ça nous inspire pour nous, parce que dans nos vies chrétiennes, il va y avoir des obstacles qui vont nous paraître quelquefois infranchissables. L'ennemi va avoir réussi quelquefois à faire beaucoup de dommages dans nos vies. Et puis souvent c'est sans vouloir accuser personne, mais souvent c'est à cause de nos mauvais choix. Quand l'ennemi a été capable de s'introduire dans nos vies et de faire d'avoir beaucoup d'influences négatives dans nos vies, c'est souvent parce qu'il y a une porte ouverte. Et puis cela dit, il y a toujours moyen de fermer la porte. Et puis il y a toujours moyen de reprendre le chemin du coursier. Hein? Mais cela dit, il va arriver des obstacles dans notre vie chrétienne, mais jamais au-delà de nos limites. Et puis comme un bouc ou une chèvre de montagne, nous, on va se promener d'un obstacle à l'autre avec la puissance de Dieu. Pas avec notre propre puissance, parce qu'on n'a pas de puissance à nous. Il n'y a que Dieu. Il n'y a que la parole, la puissance pour la parole. Et puis, ces animaux-là peuvent nous inspirer parce qu'ils sont toujours dans les obstacles. Ça s'est rendu... ça pourrait être ça, hein, la vie chrétienne. Qu'en pensez-vous? Ça pourrait être apprendre à vivre face à l'adversité, face à l'opposition. Parce que dans le fond, c'est ça. À partir du moment qu'on a accepté Jésus-Christ, ben, on va aussi accepter qu'on devient ennemi des gens du monde, c'est-à-dire du prince de la puissance de l'air. Et en devenant son ennemi, ben, c'est sûr qu'il va nous arriver de l'opposition, hein, des petites choses. Mais on ne doit pas donner plus d'importance aux obstacles qu'à la capacité que Dieu nous a donnée de traverser ces obstacles-là avec son Saint-Esprit, avec sa puissance à lui. Et puis, ces animaux-là, ça peut nous inspirer pour dire, oui, c'est vrai, il va y avoir des obstacles, mais Dieu va me donner la provision pour traverser chacune de ces obstacles. Et le dernier exemple qu'il donne, c'est le roi contre qui personne ne peut se lever. Et voilà! C'est encore la même chose que le lion, hein, qui se détourne devant personne, parce que le lion, nous, si on prend l'attitude du lion dans notre vie chrétienne, le seul qu'on craint, c'est notre Seigneur, puis on le craint pas parce qu'on a peur qu'il nous frappe, là. On le craint par respect. C'est un genre de respect qu'on... Le mot crainte, souvent, était mal interprété, parce que ce n'est pas... On craint pas notre Dieu, on le respecte, notre Dieu. Puis parce qu'on le respecte, bien sûr, on a à cœur de le servir d'une façon noble. Et puis, pour ça qu'on parle du roi maintenant, le roi, ben c'est qu'on est un sacerdoce, on est, selon la parole de Dieu, j'invente rien, nous sommes un sacerdoce royal. Nous sommes les enfants de Dieu, les princes et les princesses de Dieu. Et puis nous, si on marche dans notre position, qui peut se lever contre nous? Dites-moi, qui peut se lever contre nous? Personne ne peut se lever contre nous. On peut avoir d'opposition, mais il n'y a personne qui peut se lever puis nous arrêter, parce que c'est Dieu notre inspiration. Nous sommes des enfants de Dieu. Donc, ces animaux-là, c'est pour faire cette révision-là, ces animaux-là, ça peut être ce genre d'inspiration pour nous. Et puis, ça termine en disant, si tu as agi follement en t'élevant et si tu as pensé à mal. Je trouve ça intéressant, hein? Vous savez qu'on a déjà parlé de ça souvent, les compartiments de l'âme. Vous vous souvenez de ça? Et souvent, on disait que ça commençait dans nos pensées. Hein? Regardez ce que ça dit. Si tu as agi follement en t'élevant et si tu as pensé à mal. Donc, si tu as de mauvaises pensées, mets la main sur ta bouche. Donc, on revient toujours à dire, encore une fois, qu'on a avec notre libre arbitre une responsabilité de ce qui se passe dans notre tête. Hein? On a une responsabilité d'être la maître de nos corps et de nos membres, qui sont, en passant, ennemis de Dieu. Par nature, par la nature qu'on a reçue. La nature pécheresse. Cette nature-là est ennemie de Dieu. Maintenant que je suis né de nouveau, maintenant que je suis... Le Seigneur m'a donné la capacité de dominer sur ces membres-là. C'est plus les membres qui me dominent, c'est plus les passions de la chair qui me dominent. C'est moi qui domine et qui qui fait mourir les passions de la chair. Hein, c'est ce que Paul utilise comme mot. Donc, si tu agis follement, tellement, et si tu as pensé à mal, mets la main sur ta bouche. Parce que tant que ça reste dans ta tête, il n'y a pas de dégâts. Il n'y a pas eu trop de dégâts. Mais à partir du moment où ce que tu l'as confessé de ta bouche, là, il y a plus de dégâts. Mais à partir, tant que ça reste dans ta tête, puis que tu as réussi à le contrôler, puis ça n'est pas sorti, tu ne l'as pas lancé dans l'atmosphère, bien, il n'y a pas de dégâts. Parce que tu as été maître de la situation. C'est pas la situation, c'est pas la passion qui t'a inspiré, qui était ton maître, c'est toi qui étais le maître de la passion. Et tu l'as contrôlé, tu l'as maîtrisé avant qu'elle sorte. Car la pression du lait produit le beurre, la pression du nez fait sortir le sang, et la pression de la colère excite la querelle. Et souvent, ça fait référence à la colère. Vous savez que ce n'est jamais bon de parler sous l'effet de la colère. Parce que ça va exciter les querelles, parce que ça va exciter ça va créer des divisions, etc. On a déjà parlé de ça. Et nous arrivons maintenant au chapitre 31, qui est des paroles du roi Lemuel, et de l'oracle que sa mère lui enseigna au verset 1, que ça dit « Quoi mon fils, et quoi le fils de mon ventre, et quoi fils de mes voeux? » Et puis là, c'est une série d'instructions, que je lisais ça tantôt pendant que j'écoutais les chants. C'est une série d'instructions pour Lemuel. Ensuite, ça parle de la femme. Ça parle de la femme. À partir du verset 10, c'est-à-dire une femme vertueuse qui la trouvera. Au verset Louis II, ça dit qu'il peut trouver une femme vertueuse. Elle a bien plus de valeur que les perles. Ben voilà. Donc, on va trouver un enseignement, peut-être pas à partir de ce soir, mais à partir des prochains partages, on devrait trouver un enseignement sur quels devraient être les cherche le mot, les vertus, hein, c'est ça. Quelles devraient être les vertus de la femme selon les Écritures? On va essayer d'interpréter ça. On va essayer que le Seigneur nous donne une interprétation de ça pour notre société d'aujourd'hui, parce que certainement, ça peut s'appliquer aujourd'hui, évidemment, parce que la parole de Dieu est la même, parce que Dieu est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc, je ne sais pas si on va commencer cet enseignement-là ce soir. On va voir le début de, c'est un peu le conseil de la mère de Lemuel, les conseils que sa mère lui donne. Et puis, on va voir quels sont ces conseils-là. Et si on a du temps, mais je ne pense pas. Je ne désire pas commencer l'enseignement sur les vertus de la femme ce soir. Je voulais juste vous préparer sur quelles devraient être les vertus d'une femme à la maison. Et puis, on va essayer de voir, pour le plus grand plaisir de tout le monde, comment devrait être cette femme-là. Donc, ça dit, au verset 3, « Ne livre pas ta vigueur aux femmes, et tes voix à celles qui perdent les rois. » Bon, encore une fois, on fait référence ici que la plus grande faiblesse de l'homme, c'est la femme. Parce que un homme, quand il arrive une belle femme, puis elle commence à lui faire des beaux yeux, puis là, il perd tout son discernement. Et puis là, on a que c'est... Je vois pas du genre en disant ça, mais je trouve ça un petit peu... paradoxal, un petit peu, oui, mais pas juste paradoxal. C'est un petit peu... C'est une espèce de... C'est spécial que notre ami, Salomon, qui avait hérité de tellement de sagesse. Vous savez que c'était l'homme... Il n'y avait personne sur la terre qui avait eu de la sagesse comme Salomon. Vous savez ça? Mais on dit de lui qu'il y a eu 1000 femmes, au-dessus de 1000 femmes, et je pense que c'est 700 concubines et 300 femmes. Bon, je suis pas sûr des chiffres, là, les détails, c'est pas important. Je veux juste vous dire, regardez comment l'homme est. Le Seigneur avait donné de la sagesse à Salomon pour diriger son peuple. C'était un homme très, 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 très sage. Et puis, regardez ce qu'il a fait. Après, il s'est repenti, hein, parce qu'il a écrit le Cantique des Cantiques. Mais là, il a parlé de sa fiancée. Il faut parler de ses fiancées. Mais vous voyez comment est-ce que l'homme est faible. Et comment l'homme a besoin de se faire rappeler que sa plus grande faiblesse, c'est la femme. Et évidemment, il y a des femmes qui connaissent ces choses-là. Soit que ces femmes-là ont été frustrées, soit qu'elles ont été abusées, soit qu'elles sont en colère contre les hommes. Puis il y a des femmes qui s'amusent vraiment à perdre les hommes. Vraiment, quand ils s'aperçoivent qu'ils ont du pouvoir sur l'homme, ben, on dirait que là, ils s'amusent à... Moi, j'ai toutes sortes d'histoires que j'ai entendues qui sont plus loufoques les unes les autres. Moi, je connais un homme que sa femme, là, elle l'a vraiment tenu en laisse. Elle l'a vraiment manipulé pour qu'il lui bâtisse une super de belle grosse maison. Le gars, il a tout mis ce qu'il y avait là-dedans. Vraiment parce qu'il voulait lui faire plaisir, puis il voulait pas la perdre, puis il voulait lui donner ce qu'elle voulait, puis là, si tu veux pas que je parte, tu vas me bâtir une maison, puis avoir ci, puis avoir ça. Le gars, là, il s'est donné corps et âme. Puis quand la maison a été finie de construire, la femme, elle s'est rendue compte que c'était pas ça que ça lui prenait dans la vie, une maison, pas plus ça qui la rendait heureuse. Mais elle est partie. Et puis lui, il est resté pris avec la maison. Et tous ces problèmes-là, mais vous savez, il y en a tellement d'histoires. Là, je parle de femme envers l'homme, il y a l'homme envers la femme aussi. Mais où est-ce qu'il y a un couple, il y a toujours un homme et une femme, là. Mais je veux pas donner plus de... Mais le conseil qu'on voit ici au verset 3, c'est ne livre pas ta vigueur aux femmes, c'est bon, ben arrête de courir après ça, tu sais, parce que tu vas courir pour rien, puis ça t'apportera jamais rien. Et en plus, ces femmes-là vont te perdre, elles vont te faire perdre. Ils vont te faire perdre ta position de roi. Ben, nous, ça peut nous faire perdre notre position de chrétien qui marche dans l'honneur, hein, une femme. Parce que vous savez que l'adultère, là, ça s'appliquait pas non seulement dans le temps de Jésus, là, ça s'applique encore aujourd'hui. Le monde n'aime pas ça quand je parle de ça. Ben, qu'est-ce que vous voulez? C'est ce que la parole nous dit. Dieu ne nous a pas créés pour ça. Pour qu'on se comporte comme des animaux. En se livrant à toutes sortes de dépravations. Il nous a créé des princes, des princesses. Il nous a dit, bien, l'homme quittera sa mère, s'attachera à sa femme, ils deviendront une seule chair pour la vie. C'est comme ça qu'il a fait ça. C'est pas pour rien que ce ministère-là est attaqué comme ça par l'ennemi. C'est parce que c'est un ministère que Dieu avait mis. C'était un ministère divin. Donc, oui, c'est ça. Et puis, c'est pas plus vrai dans le temps, c'est pas plus vrai aujourd'hui. La parole nous dit que les relations sexuelles sont déréglées quand elles sont en dehors d'un engagement. Bon, ça, c'est assez large comme définition. Hein? C'est la Bible dit qu'il faut qu'il y ait un engagement entre un homme et une femme. À partir du moment, là, à ce moment-là, c'est béni. C'est de même que Dieu a fait ça, mais il a pas voulu que tout le monde se prostitue les uns les autres, prostitue leur corps et leurs âmes, parce qu'il se passe quelque chose dans l'âme, hein, vous savez, et dans le corps physique. Quand un homme va vers une femme, il y a quelque chose qui se passe qu'on voit pas. Et puis, il y a un héritage aussi. Et puis, là aussi, vous voyez, dans verset 3, ça dit « Ne lève pas ta vigueur aux femmes ». Et ça doit être clair qu'ils viennent me répondre. Et tes voix à celles qui perdent les rois. Ce n'est point au roi Lemuel, ce n'est point au roi, verset 4, de boire du vin. Regardez encore une fois. Ni au prince de rechercher les liqueurs fortes. C'est roi. Quand, encore une fois, vous savez que ça nous parle parce qu'on est sacerdoce royal. Nous ici, nous sommes des princes, des princesses. La boisson, les amis. Il y en a qui, vous savez que ça commence... c'est pas rien de mal à prendre un verre de vin, hein. Et là, c'est pas rendu un verre de vin, c'est un verre de vin à chaque repos. Et puis là, ben, c'est une sortie d'un bar. Puis là, ben, qu'est-ce que tu veux que je boive ici? C'est un bar, tu sais. Puis là, finalement, on se donne une bonne conscience. Toujours. Mais vous savez que ça dit que la Bible nous dit, c'est pas, Regarde, ça va arriver, moi aussi, là, d'un mariage. Je vais prendre une coupe de vin. Ou à la santé des mariés. Tu sais? Mais j'en fais pas une consommation quotidienne parce que la parole dit que d'être rempli de vin, c'est à l'opposé d'être rempli de l'esprit. Juste à cause de ça, moi, ben, j'aime autant pas boire de vin. Parce que moi, je veux être rempli de l'esprit, hein. Je sais pas pour moi, mais pour vous. Je suis pas mal sûr que c'est la même chose, hein. Vous voulez être rempli de l'esprit, pourquoi? Pour manifester les fruits de l'esprit. Et puis, vous savez que si vous êtes en boisson, vous allez être loin d'être rempli de l'esprit. Regardez au verset 5, de peur qu'en buvant, il n'oublie la loi. Il n'oublie la loi et les préceptes de Dieu, hein? Et ne méconnaisse les droits de tous les malheureux. Verset 6, par contre, ça dit, donnez des liqueurs fortes à ceux qui périssent pour soulager les souffrances. Quand il y a une personne qui, hein, comme on fait souvent, je pense à la guerre, je pense quand il y avait des soldats qui étaient blessés, hein, il y avait de la morphine pour abréger leur souffrance, ben, la Bible nous dit, si tu as quelqu'un qui est en train de périr et qui souffre, ben, donnez-y des liqueurs fortes pour l'aider à passer au travers de ça. Et du vin à celui qui a de l'amertume dans l'âme. Ben là, faut faire attention. Parce que il y en a beaucoup qui ont de l'amertume dans l'âme. Fait que c'est ce que je pense qu'on veut dire par là, c'est que quelqu'un qui vient de perdre, qui a une grosse peine, là, qui vient de perdre un enfant, quelque chose comme ça, tu sais, quelque chose qui a vécu quelque chose de très, très difficile au niveau émotionnel. Et puis, surtout, ça disait, si je lis dans les commentaires, qui disait ça, les Juifs, ils avaient l'habitude de donner un verre de vin à ceux qui étaient en deuil, qui faisaient un deuil. Puis, c'était dans leur habitude de faire ça. Suite à l'histoire de la crucifixion. Ce qu'on dit ici, c'est de pas donner. Tu peux en prendre, mais prends-en pas pour rien. Tu sais, prends-en quand une personne qui est en deuil, qu'il boive et oublie sa pauvreté et qu'il ne se souvienne plus de ses peines. Là, il donne elle donne des conseils à son fils. Ouvre ta bouche pour les muets, pour la cause de tous les délaissés. Ouvre ta bouche, juge avec justice et défends le malheureux et l'indigent. Voici des caractères qui plaisent à Dieu pour notre vie chrétienne. Parler pour ceux qui ne peuvent pas parler, pour la cause de ceux qui sont délaissés. On voit là le cœur de Jésus, hein? Trouvez-vous? On voit que c'est le cœur de Dieu. Ouvre ta bouche, juge avec justice, encore une fois, et défends le malheureux et l'indigent. Et défends celui qui est sans défense. Et puis ça, on reconnaît un précepte de Dieu. On est rendu au verset 10, je vous dis que j'arrêterai là, parce que je ne commencerai pas l'enseignement sur la femme ce soir. La femme vertueuse. Qui peut trouver une femme vertueuse? Est-ce que ça existe encore aujourd'hui? Je pense que oui. Je pense que oui, ça existe encore aujourd'hui. Il y a encore des femmes qui ont à cœur les préceptes de Dieu, premièrement, des femmes qui sont croyantes, qui ont à cœur de marcher selon les préceptes de Dieu, et qui ont à cœur d'être une femme de ce modèle-là. Mais si on va dire, ça va être dur pour les féministes, là. Mais en tout cas, on va essayer de voir ça d'une façon pas trop sexiste. On va essayer de voir ça, puis de se donner que le Seigneur nous donne des exemples dans la vie d'aujourd'hui. Et puis, on va essayer de voir si on peut être enseigné avec ces paroles. Et puis, sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une excellente semaine. Que Dieu vous bénisse abondamment. Si vous voulez, on va prier. Et puis, on va terminer là-dessus. Ben, Père, merci pour ces enseignements ce soir. Merci pour ces paroles qui servent à notre formation, Seigneur, à notre édification. Ils nous servent de modèle, de précepte pour nos vies. Seigneur, on te demande d'écrire ces paroles dans nos cœurs. D'enlever ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs, Seigneur, de le remplacer par ta portion. On te prie pour que le Saint-Esprit règne, Seigneur, pour chacun de nos pas cette semaine, que tu puisses marcher devant nous, que tu puisses être notre source d'inspiration, et puis que tu puisses être notre seul but, et puis qu'on puisse être tes serviteurs, Seigneur, des gens utiles dans ta maison. Je te prie pour que nous puissions être le sel et la lumière, pour que le nom de Jésus soit glorifié, Seigneur, compris. Amen. Merci beaucoup et bonne semaine à tout le monde.